les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La solitude, telle que l'avait écrite Paroles et musique Georges Moustaki, Serge Reggiani l'a chantée. Et la solitude, telle que l'avait poétiquement transcrite Rainer Maria Rilke, est passée elle aussi par la voix magnifique de Reggiani, comme on va l'entendre dans les premières secondes de l'archive qui va suivre. La solitude, dont il était question dans cette émission, c'était celle des femmes. Les femmes de 1968 qu'interrogeait Sandrine de Portal quelques semaines avant un printemps autour duquel on se querelle encore aujourd'hui. 68, Godard, l'année précédente, avait filmé deux ou trois choses qu'il savait d'elle et de la banlieue parisienne. 68, depuis peu seulement, une femme mariée pouvait travailler et ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et cette année-là, Sandrine de Portal rencontrait des femmes célibataires, des femmes mal mariées, des femmes divorcées, alors que n'existait pas le consentement mutuel, des femmes isolées et des femmes mères célibataires, comme Marie Laforêt, qui disait ce qui l'avait conduite à faire ce choix difficile. Carte blanche à Sandrine de Portal, La femme et la solitude, une émission diffusée la première fois le 11 mars 1968 sur Intervariété.
La solitude est pareille à ces pluies qui montent de la mer, s'avancent vers les soirs. Des plaines, elle va, lointaines et perdues, au ciel qui la contient toujours. Et c'est du ciel qu'elle retombe sur la ville. La solitude pleut aux heures indécises. Lorsque vers le matin se tournent les rues neuves, lorsque les corps épuisés de méprise s'entrecartent, tristes et inassouvis, et que les hommes qui se haïssent doivent dormir ensemble dans un lit. La solitude alors dérive au fil des fleuves.
Rainer Maria Rilke, ce grand solitaire, interprété par Serge Reggiani, a ainsi parlé de la solitude qui inspira également cette œuvre de Tchaïkovski dont vous venez d'entendre un fragment. Un autre écrivain, Jacques Desgachon, assura cependant qu'il n'y a que les mauvais plaisants qui raillent ou plaignent les femmes qui ne se marient pas, car, dit-il, elles évitent l'angoisse des déceptions, l'horreur d'être trahies, la honte de trahir, la torture des maternités et ce veuvage moral qui commence au soir des noces. Vision réaliste, sans aucun doute, hélas, puisque tel est bien le sort réservé à trop de femmes mal mariées et qui connaissent aussi la solitude dans le mariage. Il en est bien entendu de même pour d'innombrables hommes, et si ce soir nous devons parler des femmes, ce n'est pas que nous méconnaissions le sort réservé à tant de maris. On constate toutefois que dans notre pays actuellement, le nombre des femmes isolées, il y en aurait 6 millions, et les conditions de vie qui leur sont faites constituent un des problèmes de ce temps. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir en faire le tour. Nous voulons simplement essayer d'en prendre la mesure et, en exposant le cas des unes, parvenir à éclairer peut-être celui des autres. En effet, il est bien évident qu'il y a plusieurs sortes de solitude. Celle de la femme célibataire, de la femme mariée, de la veuve, de la femme divorcée, de la mère célibataire, et nous pensons qu'une prise de conscience plus nette de ses destins divers peut aider celle-ci ou celle-là à mieux assumer le leur. Pour entrer dans le vif de notre sujet, Frédéric Christian nous emmène à la découverte du Club des Solitaires.
Je voudrais tout d'abord demander à la présidente du Club des Solitaires, Madame Renée Lacoste, ce qu'est ce club.
Club des Solitaires est une association où viennent les personnes qui sont lasses de la solitude et qui veulent y mettre un terme.
Bon, et ce club existe depuis quand?
Depuis plus de 20 ans.
Ces gens qui viennent, naturellement, il y a des hommes, il y a des femmes. Est-ce que cela ne donne pas lieu à des mariages, finalement?
Bien sûr.
Alors, ce ne sont plus des vrais solitaires, dans ce cas-là.
Ils cessent de l'être, à ce moment-là. Ils sont remplacés par d'autres très rapidement.
Il en reste quand même assez pour
alimenter
le club.
Combien... La solitude est un fléau.
Mais combien avez-vous de membres?
Oh, 53 ou 54 000 membres.
Oui, c'est énorme.
Oui, bien sûr.
Alors, puisque vous venez de parler de la solitude fléau, je crois qu'il faudrait peut-être définir la solitude.
Moi, je crois qu'il y a plusieurs sortes de solitude. Il y a la solitude physique, le fait d'être seul dans son appartement, seul à y respirer, à y marcher, à ouvrir les portes, c'est déjà pénible. Il y a la solitude intellectuelle, pour s'enchanter d'un coucher de soleil, pour s'enthousiasmer devant des paysages touristiques. Et il y a la solitude sentimentale qui est celle que les femmes supportent certainement le moins. Parce qu'un homme acceptera volontiers d'être privé de compagne, à condition toutefois qu'il ne soit pas privé de relations sexuelles. Tandis que la femme éprouvera le besoin de s'attacher, de s'accrocher à un homme sans aucun doute. Et puis elle aura besoin aussi de l'homme pour l'aider dans la vie sociale, parce que l'homme se plaint quelquefois d'être accablé par la civilisation actuelle, mais la femme qui est novice aussi bien dans la vie professionnelle que dans le monde des affaires, dans le domaine de l'argent, qui est celui qui est le signe de notre société actuelle, et cette femme-là est encore beaucoup plus démunie que l'homme, et elle a incontestablement besoin d'être protégée, de s'appuyer sur quelqu'un. Alors, je crois que toutes les femmes qui viennent au club rêvent de l'homme qui mettra fin par une liaison, par un mariage, à leur solitude. Et ainsi, tous les problèmes de la femme seule seront résolus.
Votre club nous donne en tous les cas la preuve, s'il était nécessaire d'en avoir, que la solitude n'est pas naturelle en tous les cas. Nous allons voir, puisque nous avons quatre solitaires auprès de nous, deux femmes et deux hommes, quels sont leurs problèmes de femmes et d'hommes seuls. Alors, Madame Lobo, tout d'abord, quelle est votre condition, votre situation?
J'étais mariée, j'ai perdu mon mari il y a environ 7 ans. Auparavant, j'avais perdu également un enfant. Et donc, lorsque mon mari est mort, je suis restée absolument seule. Je vous dirais que cette situation a été très pénible, mais je suis d'un tempérament assez fort. J'ai fait tous mes efforts pour fuir cette solitude qui m'accaparait.
Madame Jacqueline Audry, metteur en scène bien connu.
Eh bien, moi, je suis membre du Club des Solitaires, mais pour un but très défini, bien que je sois dans les normes, c'est parce que je suis en train de préparer un film et un scénario qui se passera au sein de ce club.
Monsieur Valentin.
Oh bien, moi, je ne suis pas célibataire par vocation. Je ne pense pas, d'ailleurs, en fait, qu'il y ait des vocations de célibataire. Mais il se trouve que je ne me suis pas marié et qu'un beau jour, je me suis aperçu que j'étais seul. Et je me suis dit que, mon Dieu, il fallait tout de même essayer de reconstituer un cadre d'amis, de relations qui avaient pu disparaître au fil des ans et de la carrière professionnelle.
Monsieur Durançon.
Moi, je suis célibataire. Solitaire par vocation, mais vocation qui est venue d'une obligation, d'un métier qui m'oblige à être assez solitaire. Et alors cette obligation, petit à petit, est devenue maintenant une vocation. Bon, ne croyez pas que je suis solitaire, un peu comme le sanglier ou l'ours qui reste seul. Non, j'adore la compagnie, mais j'adore aussi mon petit camp à soi, du fort intérieur.
Bien, alors je vais vous demander à chacun ce que vous recherchez exactement dans ce club, à part peut-être le fait d'avoir quelques personnes autour de vous. Très honnêtement, est-ce que vous fréquentez ce club avec une arrière-idée de peut-être trouver l'âme sœur un jour?
En ce qui me concerne, non. D'abord, mon âge me le permet moins. Mais c'est parce que, devenue solitaire, mes amies qui sont toutes mariées, il faut avouer une chose, c'est que les couples reçoivent beaucoup moins les femmes seules, aussi bien jeunes ou vieilles. Si elles sont jeunes, c'est parce qu'elles suscitent la jalousie dans beaucoup de cas. Et si elles sont vieilles, le mari dit « Oh, écoute, ton ami... Hein, »
Et il y a peut-être un problème de distribution au cours des déjeuners ou des dîners.
Voilà. Et on ne sait pas comment la placer. Alors, ce que j'ai cherché en venant dans ce club des solitaires auquel j'ai plaisir d'appartenir, ben, c'est le contact humain. Parce que j'estime que tout contact humain vous enrichit.
Madame Aubry.
Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, au fond, dans la vie, tout le monde n'est pas satisfait de sa condition. Même solitaire et en dehors même de cela, il n'est pas satisfait. Et il est certain que quand il rentre au club des solitaires, il rentre dans un autre monde et il est un autre personnage. Il est le personnage qu'il voudrait être dans la vie. C'est-à-dire détendu, qui danse, qui joue au bridge, qui déjeune, qui dîne, qui rit, qui s'amuse.
Je crois qu'il faut tout de même sortir de son cadre familier. On a des occupations, on a assez peu d'amis parce que la vie est ainsi faite que, enfin, la vie devient quelque chose de... pas une jungle, c'est pas le mot, mais on vit très près les uns des autres et finalement on est très loin les uns des autres. Alors, on a des relations professionnelles, c'est un cadre défini, et si on ne le quitte pas de temps en temps, si on ne va pas vers des ouvertures tout à fait différentes, vers des gens tout à fait différents de par leurs occupations ou par leur milieu de vie habituel de ceux qu'on rencontre, eh bien, on s'ennuie, alors il faut absolument changer.
Je suis venu, moi, je vais au club des solitaires, parce que vous savez, on a beau être solitaire par vocation, on n'en a pas moins le bourdon, parce que vous arrivez dans votre appartement et tout est vide, bien que vous entendez le gosse du voisin qui crie, le dispute au-dessus.
Alors là, ce n'est plus de la compagnie, c'est un bruit irritant.
Justement, alors quand ça devient trop irritant, alors je prends ma voiture et je vais au club des solitaires, où là, vous trouvez des amitiés, voire des affections, et oui, alors, c'est quand même agréable. Et
une autre question que je voudrais vous poser, à part, naturellement, ce club où vous vous rencontrez, quelles sont les solutions de remplacement, si j'ose dire, de cette compagnie qui vous manque?
Mais rien que pour moi. Le fait que chaque mercredi, je vais me rendre au Striptease du Cœur. C'est une conférence plutôt amusante avec débat. Rien que le fait de me rendre le mercredi à cette conférence, le vendredi à cette soirée dansante, où on n'y danse pas nécessairement, mais on y rencontre les amis qu'on a pu faire au club. Mais rien que cette idée fait que la semaine passe très vite. Oui.
Madame Audrey.
À moi, personnellement, pour ce qui est du célibat, je pense qu'arriver à un certain point, quand on a un métier très envoûtant et qui vous domine complètement, on ne peut vraiment bien l'exercer que si on est solitaire. C'est-à-dire que si presque les trois quarts de son temps est employé à son œuvre et employé totalement. Ce qui n'est pas possible dans la vie conjugale.
C'est-à-dire que vous, votre compagnie, en fait, c'est le travail. Cela vous empêche peut-être de trop penser, comme on dit.
Même pas, non, c'est pas ça. C'est parce que, justement, c'est par amour d'un métier que je suis arrivée à ce point-là.
On est toujours attiré à chercher les autres, même malgré soi, même si dans le fond on n'a pas tellement envie. Et il y a vraiment très peu de solutions, surtout dans nos grandes villes. Il y a la télévision, on peut regarder la télévision, bien sûr.
Bon, enfin, c'est une grande ressource pour
les gens. C'est une très grande ressource, surtout pour les gens qui vivent à la campagne ou pour les gens déjà âgés. Pour les gens qui sont encore jeunes, c'est tout de même... c'est pas tout à fait la solution idéale. Il y a le cinéma, mais le cinéma c'est toujours pareil. On est quand même seul, même si on est au milieu des autres. Vous avez la possibilité d'aller danser. Mon Dieu, à partir d'un certain âge, c'est même quelque chose qui devient assez peu courant, de sortir, d'aller dans des boîtes. Bon, on tombe sur des gens qui sont là aussi pour s'abrutir, ou pour changer les idées, ou pour se sortir, ou sur des professionnels. C'est pas très drôle. Il reste le concert, il reste le cinéma, mais toujours, c'est toujours le même problème, on est seul.
Et comme disait tout à l'heure Madame la Présidente, il n'y a pas cette possibilité de partager une émotion qui est essentielle.
Si les solutions de remplacement, alors que j'ai été marié, cher ami, ça a été un échec, j'étais même encore plus solitaire. Vous voyez, ma femme avait sa solitude d'un côté, moi j'avais la mienne, et on était un peu comme deux étrangers. Alors, les solutions de remplacement, j'en ai vu beaucoup. Lorsque vous parlez des sorties du soir, il y en a tellement. Vous avez quand même un petit club sympathique, ne serait-ce que dans le vieux Saint-Germain-des-Prés, où on peut se retrouver assez souvent. Et je vous assure que même lorsque l'on a passé l'âge d'être yéyé, on arrive tout de même à s'amuser. Je sais pas, moi, il n'y a qu'à avoir une communicabilité avec les gens différents, précisément, et des gens de métiers différents, qui vous apportent autre chose et qui vous enrichissent par l'apport qu'ils vous font.
Je voudrais qu'on examine maintenant les profonds désavantages inhérents à votre condition, à votre situation. Tout à l'heure déjà, vous me parliez, Madame Lobo, des amis qui ne vous invitaient presque pas parce que vous étiez seule. Mais n'y a-t-il pas un problème, par exemple, sur le plan des vacances aussi? La femme seule, surtout, plus que l'homme seul.
Naturellement, si vous allez en vacances, ça a été le cas lorsque je me suis rendue à Luchon une année, eh bien j'ai eu un mal fou à trouver une chambre correcte. Finalement, j'ai pu en obtenir une, mais à l'étage supérieur, tout à fait quelconque par rapport aux autres qui existaient, qui étaient des chambres destinées aux couples.
Alors, on peut expliquer cela de la part des hôteliers en pensant que la femme ne boit pas de vin en principe en mangeant ou peu, ne fréquente pas le bar de l'établissement. Enfin, ce n'est pas quelqu'un de rentable, la femme seule pour un hôtelier. Je crois que c'est cela dans le problème.
C'est le cas, oui.
Vous est-il arrivé des aventures semblables, Madame Audry?
Non, c'est différent parce que moi, je pars peu en vacances. Quand je pars, c'est aux intersaisons, donc je trouve toujours des...
À ce moment-là, ces hôteliers sont ravis de vous avoir.
Au contraire, alors là, à ce moment-là, les célibataires
sont ravis d'accueillir. Doit-on conclure que la femme seule est condamnée à aller en vacances à une époque qui n'est pas celle des vacances?
Mais peut-être, voyez.
Et vous, les hommes, vous heurtez-vous à ces problèmes?
Oh oui, mais enfin, c'est quand même un problème mineur, malgré tout.
Pour moi, personnellement, alors, le problème des vacances, voyez, ça ne se pose pas, c'est pendant les vacances que je travaille, souvent. Alors, oui. Alors, le problème, donc, des chambres ne se pose pas. Mais il est évident que, je reviens à ce que disait madame tout à l'heure, madame Lobo, pour les femmes seules, c'est assez difficile. J'ai pu m'en rendre compte, fréquentant beaucoup d'hôtels, c'est très difficile. Souvent, on refuse même des chambres à une femme seule. Jamais un homme seul.
Non, si la femme seule accepte de payer le prix d'une chambre double, on l'accepte.
C'est une chose mineure, mais j'aimerais revenir sur la réflexion que faisait monsieur sur les cinémas, les théâtres. Je me suis surprise un jour. Au théâtre, j'y étais allée pour voir une pièce assez amusante. Je ris rarement, il m'est très difficile de rire au théâtre, mais cette fois-là, je me suis surprise à rire presque aux éclats. Pour tout à coup, m'arrêter subitement parce que je me trouvais tellement bête de rire.
À part ces problèmes, il n'y en a-t-il pas d'autres? Je ne sais pas, par exemple, dans la vie de tous les jours, pour une femme, par exemple, le fait d'avoir un instrument électroménager qui tombe en panne, un homme qui est là...
Vous avez une gazinière à déplacer parce que vous désirez en nettoyer l'emplacement. Vous avez une tringle de double rideau qui a décroché, que vous voulez accrocher. Vous avez un fer électrique qui ne marche plus, une panne d'électricité. On y arrivera, nous, les femmes. Mais nous n'avons pas ça, nous n'avons pas les muscles de ces messieurs. Et après beaucoup d'efforts infructueux, on finira par le faire. Voilà. Mais alors, quels agacements!
Il y a quelqu'un de musclé qui...
Oui, alors, Madame Lobo, je vous permettrai de vous dire que moi, pour coudre mes boutons, les premières fois, j'ai cousu mon doigt. La première fois que j'ai fait mes frites, je croyais que j'étais marchand de charbon. Alors, petit à petit, j'ai réussi. Petit à petit, je crois que pour réparer les instruments électroménagers, il n'y a pas tellement besoin de muscles.
Non, mais...
Je pense que, au fond, pour l'ensemble des célibataires, femmes et même hommes, eh bien, si on est très riche, si on a de l'argent, la chose est possible. Parce que tout un côté de la vie, vous pouvez l'acheter, l'organiser pour vous, et à ce moment-là, ça commence même à être presque intéressant. Mais en dehors de ça, non.
Indépendamment de cela, je crois qu'il y a quand même des côtés un peu plus dramatiques, à la maladie. Quelles sont ces choses profondes, ces choses graves que vous vivez tous les jours?
Moi, je reviens toujours à ce manque d'affection.
Mais de l'autre côté, vous savez, ça arrive aussi si vous êtes malade auprès de quelqu'un qui est votre mari ou votre femme et qui ne vous apporte pas ni l'aide ni l'affection qu'il faut, on est encore beaucoup plus malheureux, je crois.
Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Tout à fait ça, on ne peut pas se marier pour avoir de l'affection ou on ne peut pas vivre avec quelqu'un pour avoir de l'affection. On vit avec quelqu'un parce qu'on aime ce quelqu'un et parce qu'on est heureux avec, c'est tout.
Une femme ne se marie pas pour être une infirmière et l'homme non plus pour soigner sa femme.
Bien sûr.
Oui, mais enfin, c'est évident, ça c'est un problème auquel je n'avais pas pensé. Vous m'y faites songer tout d'un coup. Évidemment, la maladie arrivant, ça peut être très dramatique. Très dramatique.
Il y a la mort aussi. Oui. Encore pire. Exactement.
Ce qui me fait haïr la solitude, c'est parce que je ne suis pas la seule. La plupart des femmes éprouvent les mêmes sentiments que moi. Une femme aime donner. Elle aime se sacrifier. Et si elle n'a pas la personne auprès d'elle, pour qui se sacrifier? À qui donner?
Alors là, je vais poser une question, je crois assez importante. Est-ce l'explication selon laquelle on voit souvent des femmes seules, avec beaucoup de courage et d'abnégation, se donner corps et âme à des métiers très pénibles, très durs, où il y a de l'entraide, de l'amour, en fait, à donner, à dispenser aux autres?
Mais c'est la seule parade à la solitude, celle-là. Ce qu'a exposé Jacqueline Audry, se vouer à quelque chose, ou bien à un métier passionnant, ou bien à un être quelconque, et même à un chien, pourvu qu'on donne quelque chose et qu'on en reçoive quelque chose, s'il s'agit du chien, oui. Mais s'il s'agit des œuvres ou des œuvres d'assistance, il est très rare qu'on soit payé de retour.
Bien sûr. Je pense que le problème ne se pose pas de la même façon pour les hommes.
Oh, les hommes peuvent avoir aussi envie de donner, peuvent aussi s'occuper d'œuvres charitables
ou d'aider
leurs prochains. Non, je crois que c'est pas ça. C'est un problème beaucoup plus général. Les gens ont besoin d'avoir une famille. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont en eux des structures, on en parle beaucoup ces temps-ci, profondes. Je ne sais pas si c'est par l'habitude, mais je crois que c'est comme ça, un être humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, finalement la différence est, en ce qui nous concerne, mineur, a besoin d'avoir des gens en amont et des gens en aval, a besoin d'avoir des enfants, a besoin d'avoir des parents. Et je crois que ce drame de la solitude, c'est justement d'être finalement un arbre tout seul. Je crois que c'est ça.
Oui. Une autre question, je voudrais demander, si le fait de vous retrouver un peu seul vient de ce que vous avez quelques griefs à formuler.
Je n'ai pas tellement de griefs. Non plus, on a toujours des griefs au moment où le divorce arrive, parce que c'est une question de divorce. Mais les griefs, lorsque, après, à tête reposée, je me suis fait moi-même. Car, venant justement de cet état, si vous voulez, de solitude. Car j'aimais avoir mon petit compte à soi, là, être tranquille, et qu'on ne vienne pas pignocher dedans. Alors ce qui fait que cette solitude, évidemment, n'a pas été admise par mon ex-femme, et le divorce est arrivé de cette solitude.
Alors peut-on en conclure que les gens qui sont seuls, la plupart du temps, c'est par leur faute?
Je dirais certainement au moins pour 50 à 60%, enfin par leur nature.
Par leur nature, par leur caractère. Oui. Il est dans les sombres écoles des enfants qui pleurent toujours, les autres font leur cabriole. Eux, ils restent au fond des cours. Eh bien, c'est ça, on est seul à cause de son caractère, la difficulté de s'assimiler à la société. Et la plupart des solitaires qui viennent chez nous ne sont pas solitaires par suite d'événements, des circonstances et qui ont brisé leur union, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, du fait de leur caractère, de leur tempérament, ils avaient tout ce qu'il fallait pour rester seuls.
Une dernière question, et ce sera notre conclusion. Je vais vous demander à chacun d'entre vous si vous aviez un conseil à donner à une personne qui a encore largement le temps de ne pas vivre en solitaire, quel est le conseil que vous lui donneriez?
Je lui donnerais le conseil de ne pas se complaire dans cette solitude, de faire tous ses efforts, de faire des recherches pour rechercher la communication avec autrui.
Bien, moi, ce que je conseillerais, je pense, c'est que dans tout mariage, il faudrait que chacun, pour répondre à monsieur qui disait qu'il avait au fond, il avait un fond de solitaire au départ, il faut laisser une marge de liberté et chacun doit avoir plus ou moins ou son travail ou sa possibilité de vivre tout seul une partie de la journée. Et à ce moment-là, je pense que la vie conjugale serait merveilleuse.
Non, moi je crois que je suis tout à fait hors d'état de donner des conseils. Chacun a son destin, chacun a sa vie et la suit. Et je crois que le meilleur conseil à donner, c'est de ne pas trop s'en inquiéter, il arrive ce qui doit arriver.
Bah pour moi, voyez-vous, le mariage devient quand même quelque chose d'extrêmement sérieux, surtout maintenant. Et il y a à faire très très attention. Alors je pense peut-être qu'il va y avoir une petite vague de solitude pendant les fiançailles, les fiançailles prolongées, je suis pour les fiançailles prolongées, avant le mariage. Je pense que ça résoudrait certainement beaucoup de problèmes. Et quant à au fond de ma pensée, je rejoins tout à fait Madame Jacqueline Audry sur la liberté individuelle.
Eh bien, nous allons laisser le mot de la fin à Madame la Présidente.
Et ce ne sera pas le mot de la fin parce que c'est un problème qui se pose souvent au club. Vaut-il mieux accepter une union médiocre ou un célibat assez bien équilibré?
marche sans arrêt dans cette énorme ville où gronde le murmure immense de la mer, où l'on perçoit à peine le signe d'une étoile, le galop d'un cheval dans la rue le matin, l'agile des oiseaux sur les arbres de neige, le cri vert des bateaux dans les vagues de marbre. Je marche sans arrêt, perclus de solitude, dans ces déserts mortels tout luisants de regards. J'entends autour de moi des plaintes étouffées, des soupirs de bonheur, fragiles roses mortes. Heureusement, ma lampe, phare de mes automnes, brille là-bas, au loin, dans le fond de mon cœur, et m'attire, invincible, tout gluant de ténèbres. Je monte un escalier dans cette énorme ville où gronde le murmure immense du malheur. Orcha, lampe, famille, bonne humaine chaleur, sauvez-moi tous les soirs du naufrage intérieur, de l'éternel naufrage.
Le poète Maurice Fombeur, interprété par Jean-Louis Gemma de la Comédie-Française, et Django Reinhardt, interprétant Duke Ellington, viennent aussi, à leur manière, de nous parler de la solitude. Mais pour répondre à la question posée par le Club des Solitaires, cédons le micro à Pierrette Lecomte.
Où se situe la plus totale solitude? Dans certaines unions ou dans le célibat? Voici la question à laquelle, mademoiselle et madame, vous avez bien voulu répondre devant nous ce soir. Mademoiselle Martin Deschamps, merci à vous d'être venue. Vous représentez la célibataire. Vous, madame, dont je tairai le nom parce que vous portez celui d'un monsieur qui est votre mari, vous avez bien voulu, avec beaucoup d'intelligence, du cœur, accepter de jouer votre rôle qui est celui d'une femme mal mariée. D'abord à toutes les deux, merci. Mademoiselle Martin Deschamps, votre célibat fut-il volontaire?
Mon célibat n'a pas été volontaire, parce que j'ai été fiancée à 18 ans et que j'aurais dû équilibrer ma vie, et qu'à la suite de ça, eh ben, mon Dieu, je n'ai plus eu envie de me marier.
Bon, et vous ne l'avez jamais regretté?
Non.
Vous avez dit ça avec une énergie.
Ouais. J'ai le courage de mes opinions.
Votre vie de célibataire est-elle agréable?
Ma vie de célibataire est très agréable, en ce sens que j'ai un métier qui me plaît.
Oui.
Qui suffit à remplir ma vie.
Vous vous occupez de musique, je crois.
Oui.
Voilà. Et rien ne vous a jamais manqué?
Non, pas spécialement.
N'avez-vous pas, permettez-moi l'expression, n'avez-vous pas de temps en temps l'impression de mener une vie un peu égoïste, non?
J'essaie de ne pas l'amener égoïste. Je fais tout mon possible pour penser aux autres.
N'avez-vous jamais envié vos amis, quand vous les rencontriez, au bras d'un mari épatant? Parce que vous savez, il y en a. Il y en a des mariés épatants.
Oui, mais il faut tomber dessus. Ce n'est pas toujours le cas.
Et c'est parce que vous n'étiez pas tellement sûr de tomber sur un comme celui-là que vous n'en avez pas pris?
Exactement.
Pourtant, j'espère, mademoiselle, que vous aimez la compagnie des hommes.
Beaucoup même.
Oui, vous l'appréciez.
Énormément.
Mais en toute liberté.
En toute liberté.
Et dites-moi, les enfants, fut-ce un problème qui vous a préoccupé?
Pas du tout.
Non?
Et pourtant, j'ai affaire à beaucoup d'enfants de par mon métier, et les enfants même.
Oui.
Mais je n'ai pas de regret de ne pas avoir d'enfants.
Dites-moi, mademoiselle, je crois savoir de vous, parce que nous avons bavardé longtemps avant, que vous ne vivez pas complètement seule. Non.
Ah non, j'ai un être adorable avec moi.
Qui est?
Un teckel.
Bon, alors en conséquence, ce n'est pas tellement la solitude intégrale.
Non.
Mais ce qu'il y a d'amusant, voyez-vous, ça c'est bien la logique féminine, parce que vous n'avez pas voulu vous marier de peur d'avoir une vie de chien. Et c'est aux côtés d'un chien que vous trouvez votre
exactement,
vie.
Exactement, mais il y a des vies de chiens très agréables. Vous savez, la place a souvent été demandée chez moi, la place de chien.
Dites-moi, chère mademoiselle, est-ce que vous pensez, permettez-moi de vous le demander, est-ce que vous pensez que, nous ne dirons pas la vieillesse, c'est pas un joli mot, mais l'âge avancé d'une personne seule ne pose pas un problème? Est-ce que vous n'y pensez pas quelquefois?
J'y pense très souvent et j'avoue que là, j'ai tout de même un peu de mélancolie.
Oui.
Maintenant, je pourrais très bien être mariée et ne plus être avec mon mari. C'est... Ou l'avoir enterré ou avoir divorcé.
Eh bien, vous, c'est très logique tout ce que vous dites là. Si vous aviez à répondre à cette question, directe, vaut-il mieux rester seule que d'être mal mariée. Que répondriez-vous ?
À mon avis, oui, sans aucun doute.
Il vaut mieux rester seule.
Ah oui, parce que si j'avais été mal mariée, je ne serais sûrement pas restée.
Approchez-vous, s'il vous plaît, madame. Votre mariage fut-il d'abord heureux ?
D'abord, oui.
Oui, et maintenant ? Qu'appelez-vous être mal mariée ?
Ne plus s'entendre. N'avoir pas suivi deux voies absolument parallèles.
Oui.
Et ne plus se comprendre. Absolument sous aucun rapport.
Selon vous, permettez-moi la question aussi, selon vous, à qui la véritable faute ?
Un peu aux deux, disons.
Madame, vous n'avez pas divorcé. Pourquoi ?
Je n'ai pas divorcé parce que j'avais des enfants. Je n'aurais pas eu d'enfants, certainement j'aurais divorcé. Mais les enfants ne devaient pas être tiraillés entre deux foyers et ils devaient avoir leur vie préservée.
Donc, ce fut de votre part une forme d'acceptation.
Absolument.
Pouvez-vous ici nous expliquer, nous donner le thème, le processus de cette acceptation ?
Tout d'abord, c'est la révolte.
Bien sûr, c'est très féminin, ça.
Oui, c'est la révolte.
Oui.
Et puis, les larmes.
Oui.
Et puis, ça dure plus ou moins longtemps.
Oui.
Ça peut durer très longtemps. Et finalement, on arrive à raisonner. On pense d'abord à ses enfants, à tout ce qui vous reste à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est tout ce qui vous reste.
Chère madame, vos enfants vous ont-ils apporté autant de joie que pu vous apporter une liberté retrouvée, par exemple ?
Pas de la même qualité, de meilleure qualité, et certainement plus de joie.
C'est très beau ce que vous dites là, madame.
Mais d'une qualité différente.
Oui.
C'est incomparable.
Oui, parce que... Dans cette acceptation, dans ce côté mal marié, que devient la tendresse ?
Ah,
indispensable à une femme,
oui,
très femme et très vraie.
On la reporte sur les enfants qui vous le rendent, parce qu'ils sont très sensibles à la tendresse.
En voulez-vous à votre mari ?
Non, plus du tout. C'est fini.
Non,
non, nous sommes amis même.
J'allais vous demander, madame,
pas cohabiter sans être amis ?
Voilà, peut-on être mal marié et être amis ?
Oui, parce qu'on arrive à pardonner, on arrive à s'élever au-dessus de sa rancune. Et il faut raisonner beaucoup pour ça.
Oui.
Il faut se placer un peu au-dessus de soi-même, il faut bien dire. C'est pas toujours facile. Ça ne vient pas du premier coup. Il faut s'y exercer longtemps, des années. Et puis, un beau jour, on s'aperçoit que ça va à peu près, qu'on n'en veut plus à personne. Et on se fait une vie affective dans ses enfants.
Et puis, enfin, est-ce que vous me permettez d'être un peu réaliste ? Je suppose quand même que votre mari, qui est resté votre ami, vous apporte ce qu'on peut appeler de temps en temps quelques coups de main. Par exemple, j'ai une question. Qui est-ce qui a fait la feuille d'impôt chez vous ces jours-ci ?
Oh, c'est lui ! Oh, j'ai marre de ça !
Donc, en conséquence...
Oui, et puis tout de même, on a moins d'ennuis. Il tranche certaines questions. Il y a des procès qui lui incombent. C'est lui qui se présente au tribunal. Enfin, il y a des choses qui sont à lui. Et qui vous débarrasse bien, parce qu'une femme est... Une femme est un peu débordée dans certains cas, il faut bien dire.
En face du devoir que vous avez rempli, n'est-ce pas, de la tâche que vous avez continué d'assumer, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de jalouser l'indépendance de vos amis célibataires, comme par exemple mademoiselle Martin Deschamps, qui vient de nous parler si librement ?
Jalouser, non. Non, pas jalouser, ce n'est pas le mot. Mais enfin, quelquefois, quand on est excédé par les soucis, on se dit « Ah, si j'étais seule !» Et puis ça ne dure pas, ça dure 5 minutes, et après on revient vite à ses enfants.
Donc, chère madame, si vous aviez vous aussi un conseil à donner, vaut-il mieux rester seule ou vaut-il mieux être mal mariée ? Alors là, je vous demande de bien vouloir réfléchir, parce que votre réponse va être intéressante. Celle de mademoiselle Martin Deschamps l'était profondément. Elle l'a dit avec beaucoup de sincérité, je le répète. Oui, j'aime mieux la solitude. Bon, parce qu'elle connaît sa solitude. Vous connaissez l'état de femme qui ne fut pas pleinement heureuse et qui pourtant reste aux côtés d'un époux pour sauvegarder le foyer et sauver le bonheur des enfants. Répondez-moi bien, franchement.
Oui, franchement, je crois que sans connaître la maternité, il vaut mieux rester seule. Mais dès qu'on a des enfants... On a un autre point de vue.
Donc, vous, madame, et je crois que c'est là que nous allons tirer la conclusion, vous ne m'en voudrez pas, mademoiselle, vous, madame, vous êtes quand même pour le mariage.
À condition de bien réfléchir.
N'y mettez pas de condition. Car en vérité, qu'est-ce que la vie ? C'est un très grand jardin. Mademoiselle, vous, dans ce jardin, vous y promenez votre chien. n'est-ce pas? Quant à vous, madame, vous y cultivez des fleurs, même si elles s'appellent des soucis, je crois.
Oui. Ça ne m'empêche pas de cultiver des fleurs.
Sur votre balcon, peut-être.
Sur mon balcon, oui.
En tout cas, concluons simplement ceci. Je crois que le bonheur est en soi à la condition qu'il ne soit pas égoïste.
Exactement. Ah,
oui. N'est-ce pas? Vous êtes de mon avis?
Oui, tout à fait.
Alors à ce moment-là, il n'y a pas de solitude.
Non,
ni d'un
pas
côté,
être égoïste,
ni de l'autre.
Pas.
Des compliments, mademoiselle. Merci, madame.
Se résout, dit-elle en s'éveillant. Car le sommeil m'a donné à penser, et ma mémoire est un fruit savoureux, plus savoureux que le soleil nouveau qui doucement éclaire mes draps chauds. Mémoire, et même du désert et du silence, joli désert où la mort est légion, le cœur parcelle et le temps dispersion, silence noir où tout se contredit. Elle s'éveille, et ses yeux ne sont plus ces îles loin à l'horizon du corps. On y pénètre, on y chante, on y rit. Le jour bâillonne le silence.
Un poème de Paul Éluard, interprété par Serge Reggiani, une composition d'Hérald Garner. La solitude est décidément un thème d'inspiration pour les poètes et les musiciens. Nous venons d'entendre le témoignage d'une femme mariée et mal mariée, qui surprendra bien des auditeurs. Disons, pour répondre à cet étonnement, que Madame X représente un cas plus fréquent que beaucoup ne le pensent. Elle est parvenue à aménager une demi-solitude, et son mari a pu rester un ami. Cette demi-solitude et cette amitié valaient certainement qu'elle fît preuve de tant de sagesse. Par ailleurs, elle appartient à cette catégorie de femmes pour qui la maternité peut remplacer l'amour. Et cela n'est pas si fréquent qu'elle semble le croire. L'amour maternel est en effet d'une essence tellement différente qu'il n'est pas si naturel qu'il vienne se substituer à l'autre. Substitution souvent périlleuse, et pour les enfants eux-mêmes, car nous savons bien qu'elle peut susciter parfois ce qu'il est convenu d'appeler les mères abusives.
Mais au fond de toute solitude se fait entendre l'appel du bonheur que Jean Yanofsky va évoquer maintenant.
Le problème, se plaisait à dire Byron, c'est qu'on ne peut vivre ni avec les femmes ni sans elles. Et encore, il n'y a pas eu d'homme plus enlevé que moi. Et voilà posé tout le problème du couple, et aussi celui de toute vie sociale. Qu'est-ce que la solitude? Qu'est-ce que la non-solitude? Qui est fait pour l'une? Qui est fait pour l'autre? À quelle période? À quels instants de la vie? En quelles circonstances a-t-on impérieusement besoin de l'une ou de l'autre? En quelle période? En quels instants? La solitude peut-elle être souhaitée, acceptée ou refusée? Et de même, la non-solitude. Ou encore, auprès de qui est-il possible d'être seul ou de ne l'être pas? Autant de questions que peuvent faire naître l'amour et le couple souvent, et l'amitié quelquefois. Et au fond, toutes ces questions ne conduisent-elles pas à un mot un peu bête, un peu usé à force d'avoir traîné partout, dans les poèmes et sur les cartes aux sulfures, dans les profondeurs dormantes des rêves et sur le clapotis des lieux communs, que suscitent les cérémonies de fiançailles et de mariage? Ce mot un peu bête, un peu usé, c'est le bonheur. Mot que personne ne peut définir parce qu'il couvre l'insaisissable et le mouvant, parce qu'il a un sens différent pour chacun de nous, et différent encore selon le temps, les circonstances, l'environnement, l'équilibre physique ou son contraire, les tempêtes ou le calme plat de l'imagination, des passions et des inclinations. Le bonheur, magnifique auberge espagnole, étonnante irradiation du quotidien, transmutation des êtres, des choses et du temps, monde imaginaire ou inaccessible pour les uns, victoire sur l'incertain pour les autres, fête de hasard et de stratégie comme toutes les victoires. Qui veut le conquérir et le vivre? Qui veut en rêver seulement et le repousser? Parce que plus forte est une autre attirance, celle des sombres plaisirs d'un cœur mélancolique, que la fontaine et Horace avant lui, surgoûtés, avant que les romantiques ne les eussent découverts, et que les psychologues et les psychanalystes d'aujourd'hui ne les eussent disséqués, inventoriés et revendus sous ordonnance à tous les aigretants atteints d'un nouveau mal du siècle. À l'origine de ce mot ou de cet état, comme vous voudrez, il y a cet instant dont on se souvient et qu'on idéalise, c'est cela qu'on a voulu à tort ou à raison réglementer, codifier, apprivoiser, pérenniser. On a confondu la lumière et la maison, ou l'abeille et la maison, comme eut dit Paul Valéry, et de cette confusion sont nés peut-être les problèmes qui font le sujet de cette soirée. Dans des conditions convenables de température et de pression, comme disent les chimistes, deux personnes de sexe différent se rencontrent, ils ne se seraient pas vus hier, ils ne se reconnaîtront pas demain. Mais c'est cependant sur cet instant que se décidera leur vie, et pour une bonne part, celle des enfants, qui porteront quelques années plus loin la lumière d'un regard, des rêves étouffés, des passions inassouvies. C'est sur ces bases instables et hasardeuses qu'il faudra construire cet édifice social qui s'appelle la famille. Si le point d'équilibre a été heureusement trouvé, ce sera le bonheur. Et ni pour l'un ni pour l'autre ne se poseront autrement que superficiellement et sporadiquement le problème de la solitude ou de son contraire. Les couples heureux, comme les peuples heureux, n'ont pas d'histoire. Mais depuis quelques millénaires, si quelques peuples sont sortis de l'histoire parce que leurs traces se sont perdues, bien peu nombreux sont ceux qui n'y sont pas entrés. Pour ces couples qui ont joué quitte ou double, tout est problème à partir du moment où il faut résoudre la contradiction, qui consiste à la fois à vivre ensemble et à vivre seul, ou à vivre ensemble et à vivre ailleurs. Vaut-il mieux subir cette contradiction et s'insurger contre elle, sans oser lui échapper, ou la rompre pour échapper à la dégradation des conflits sans issue? La réponse serait peut-être simple s'il intervenait dans le problème à résoudre un troisième élément, les enfants. Et voici ouvertes les écluses de la psychologie sommaire, de la sociologie de bazar, des conclusions édifiantes et des condamnations sécurisantes. À propos d'un drame récent, un journaliste écrivait sans sourciller que tous les enfants divorcés étaient des assassins virtuels. Pourquoi? L'auteur ne l'a pas précisé. Il semble cependant que les choses soient plus simples et moins tragiques. Le bonheur n'est-il pas après tout un tropisme, un besoin naturel de lumière et de chaleur, et cette lumière, cette chaleur, ne peuvent venir que d'une source rayonnante, et là où cette source est tarie. Quelles que soient les raisons de ce tarissement, il est inutile de souffler sur les cendres, de pratiquer la méthode Coué. Les enfants peuvent avoir chaud dans un nouveau foyer reconstruit, au contact d'une indépendance reconquise. Ils souffriront cruellement du froid, là où il n'y a ni chaleur ni lumière, car mieux que quiconque, ils sauront distinguer la vérité des apparences, et combien de foyers exemplaires ne sont que des façades sans vie de maisons vides. La lumière et la chaleur ne dépendent ni du législateur, ni de la faculté d'illusion ou de transposition des hommes. Là aussi, seul compte ce qui est authentique pour les adultes comme pour les enfants, et pour les uns comme pour les autres. Mieux vaut une séparation loyale que le jeu des apparences et des tricheries, où tout le monde perd sa mise, et d'abord ceux qui n'avaient pas choisi de jouer à ce jeu-là.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, t'as l'ennui. je n'ai pas le goût du malheur. Va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je fais m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême et jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout elle me fait escorte et elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là.
C'est Barbara, vous l'avez reconnue, qui à son tour chantait la solitude. Le divorce, c'est aussi une loi, des contingences matérielles sordides. Nicole Rosselin-Granville et maître Sénéchal, avocate à la cour, vont traiter ce sujet délicat.
Dans le cadre de cette émission consacrée à la femme et la solitude, il est un aspect évidemment important, c'est celui de la femme divorcée. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés interviewer maître Sénéchal pour lui demander quel était son sentiment, pourquoi la femme divorçait-elle et pourquoi subissait-elle le divorce.
La femme divorce tout comme l'homme à partir du moment où elle a conscience que son ménage est perdu. Le divorce en droit français n'est jamais un divorce par consentement mutuel, il est demandé par l'un des deux époux contre l'autre, et je crois qu'on peut dire que jusqu'à 35 ans environ, il doit y avoir à peu près autant de femmes prenant l'initiative de divorcer que d'hommes. Mais au-delà de cet âge, les femmes subissent davantage le divorce, ou plus exactement, l'initiative du divorce vient beaucoup plus souvent de l'homme que de la femme.
Je croyais qu'en général, en France, la raison impérative d'un divorce était l'adultère.
Oui, la raison impérative, c'est l'adultère, mais il y a d'autres causes de divorce. Il y a les violences, il y a les injures graves. Injures graves et répétées. Une seule injure ne peut évidemment pas suffire. Et puis il y a aussi les condamnations afflictives ou infamantes, quand l'un des deux époux est condamné à une peine de réclusion.
Et pour une femme qui a une situation, si elle s'oppose au divorce, si elle ne souhaite pas, quels sont ses moyens d'action?
Si son mari n'a rien à lui reprocher, il ne pourra pas l'obtenir.
En dehors d'une vie infernale quotidienne.
En dehors d'une vie infernale quotidienne. Et les époux se retrouveront mariés, non plus pour le meilleur, mais pour le pire, et le ménage continuera à mener qu'à une vie ou commune ou séparée, mais on n'aura quand même rien sauvé.
Oui, et pour un profane comme moi, revenons-en à cette question d'adultère. Est-il vrai que, grâce à Napoléon qui avait eu quelques tracas avec les femmes, la femme et l'homme ne soient pas égaux devant l'adultère?
Ah non, absolument pas. La femme peut être poursuivie pour adultère ou qu'elle le commette, qu'il s'agisse du domicile de son amant ou d'une chambre d'hôtel, alors que le mari ne peut être poursuivi et condamné en correctionnel que pour entretien de concubine au domicile conjugal.
Vous trouvez ça juste?
C'est absolument injuste. C'est même inique. Remarquez que, cependant, c'est un petit peu adouci, cette différence et cette iniquité est un peu adoucie dans la mesure où la notion de domicile conjugal est une notion assez large et où on avait coutume de dire jadis que le mari transportait le domicile conjugal à la semelle de ses souliers. Ça n'est pas quand même tout à fait exact. Il faut que ce soit quand même un endroit où il réside régulièrement. Mais enfin, il est bien évident que c'est absolument inique. D'ailleurs, l'iniquité ne s'arrête pas là, puisqu'aussi bien la femme complice de l'adultère d'un homme, une femme célibataire, complice de l'adultère d'un homme marié, est automatiquement poursuivie en correctionnel. Ou plus exactement, quand elle est complice, non pas de l'adultère, mais dans de l'entretien de concubine au domicile conjugal, puisque c'est ainsi que s'appelle le délit pour l'homme. Tandis que quand il s'agit du complice d'une femme mariée, il ne peut être poursuivi qu'au cas où il y a flagrant délit ou au cas où il y a aveu de sa part, mais il ne peut pas être poursuivi s'il y a simplement contre lui des présomptions graves.
Y a-t-il des pays qui soient un petit peu moins sévères pour la femme et le divorce ?
Dans d'autres droits que le nôtre, il y a également une autre forme de divorce qui est le divorce par consentement mutuel. Il y a l'incompatibilité d'humeur, il y a tous ces divorces américains basés sur la cruauté mentale dont on ne sait pas très bien où elle commence et où elle finit, on peut le deviner, mais où elle commence, ça peut être vraiment une plaisanterie, comme le mari refusant de sortir le chien ou quelque chose de ce genre. Mais il y a, dans d'autres législations, un divorce par consentement mutuel, que nous n'avons pas en France. Le divorce par consentement mutuel, le divorce d'accord, a beau être interdit en droit français, quand des gens sont d'accord, on ne voit pas très bien comment on pourrait ne pas arriver à divorcer. Il est évident que le divorce d'accord existe virtuellement, en ce sens que si l'un a quelque chose à reprocher à l'autre, et inversement, eh bien, on peut se mettre d'accord au moins sur les modalités du divorce concernant justement toutes les questions de domicile, de garde d'enfants, de pension alimentaire. Donc on peut, si vous voulez, déjà tourner la loi. Mais il n'en reste pas moins que, même dans ces cas-là, une procédure, qui est une procédure que l'on fait contre quelqu'un, laisse toujours des séquelles, et des séquelles un peu amères. Il suffit de lire notre prose quand il s'agit d'une demande en divorce ou celle des magistrats quand il s'agit du jugement prononçant le divorce, on s'aperçoit que c'est très désagréable à lire pour le conjoint.
Estimez-vous que la femme a gagné pour éviter cette fameuse solitude en acceptant les gaz asphyxiants de la mésentente ou en reprenant sa liberté ?
En ce qui me concerne, je crois que je préférerais 100 fois le divorce et que je connais trop de ces ménages où la femme ou le mari refuse à l'autre de divorcer et où en fin de compte on vit un enfer commun, je crois que ça n'est pas souhaitable. Maintenant, il est bien évident que pour bon nombre de femmes, le divorce est un drame.
Avant de conclure, maître, je voudrais vous demander s'il y a un peu d'espoir. Cet espoir, je le voudrais double. La femme peut-elle espérer une amélioration de son statut vis-à-vis de l'adultère ? Et peut-on envisager dans un avenir proche ce qu'on appelle le divorce de consentement mutuel ?
En ce qui concerne le statut de l'adultère, un projet de loi récent, ou tout au moins une proposition de loi faite par un député récemment, a été repoussé. Il est bien évident que c'est un sujet qui prête immédiatement à sourire, et si il m'est arrivé bien souvent de combattre pour tenter d'obtenir l'égalité de la femme dans tous les domaines, à partir du moment où on se place sur le terrain de l'adultère, on ne trouve en face de soi que des plaisantins qui vous demandent immédiatement si vous plaidez pour votre propre cause et qui se refusent à s'y intéresser. Il faudrait que ce soit les hommes qui aient le courage de prendre la chose en main et une fois pour toutes de rétablir cette égalité.
Et le divorce de consentement mutuel ?
Quant au divorce de consentement mutuel, je ne crois pas qu'il y ait de projet de loi en France sur ce plan-là. Je pense cependant que la législation française n'aurait rien à y perdre, car c'est quand même un moyen pour séparer des êtres qui ne peuvent plus vivre ensemble, pour les séparer sans qu'il y ait entre eux trop de heurts, sans que l'amitié, l'affection, l'estime qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre se trouvent affectées, bien que l'amour n'y soit plus. C'est le meilleur moyen de conserver la dignité de chacun d'eux et le respect qu'ils ont et de leur propre personne et de celle de l'autre. Je crois qu'on devrait en arriver là, mais à ma connaissance, rien n'est prévu en ce sens.
pour d'innombrables chrétiens, le problème est beaucoup plus complexe et se situe sur un autre plan. Si les protestants et les orthodoxes ont de tout temps fait preuve à cet égard d'une large compréhension qui permet à des couples désunis de refaire leur vie, il n'en allait pas de même jusqu'à présent de l'Église catholique. Mais celle-ci, dans un magnifique élan de vitalité, franchit, non sans surmonter bien des malaises, des hésitations et des difficultés, les différentes étapes qui vont la conduire à une indispensable adaptation au monde d'aujourd'hui. Françoise Favier est allée interroger à ce sujet M. l'abbé Berthier, directeur de l'enseignement catholique en France.
La femme divorcée n'est pas exclue de l'Église si elle ne se remarie pas.
Oui, je voudrais insister sur ce point. Je trouve très tragique que quelques femmes divorcées non remariées se croient exclues de l'Église. Et je trouve très tragique que des gens qui n'ont jamais réfléchi à ce problème-là considèrent les divorcés comme automatiquement exclus de l'Église. Il n'en est rien. Et il faudrait le dire très clairement. Enfin, le divorce n'est pas un mal absolu. C'est très curieux de voir cette réaction du peuple chrétien non informé, mais du peuple non chrétien aussi, et peut-être même d'abord non informé, et qui croit que l'Église rejette automatiquement quiconque a passé par cet acte juridique du divorce.
Donc, le divorce est toléré par l'Église?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela comme ça. Mais disons que le divorce est un acte qui est un acte légal, juridique d'une société, et l'Église se situe face à ce divorce lorsque, dans une société donnée, ce divorce est admis, est accepté. Et le problème se pose donc, au fond, beaucoup plus pour les divorcés qui se remarient. Et nous voilà en face d'un problème tragique. Vous savez bien combien des divorcés remariés souffrent d'être exclus de la communauté chrétienne sous l'aspect au moins des sacrements. Et bien sûr, le fait de ne pas pouvoir communier, et donc le fait de ne pas recevoir l'absolution, d'abord, les bloque au plan spirituel. C'est pour eux, pour elles, un scandale. C'est aussi pour la société peut-être l'occasion d'un pharisaïsme inadmissible, la société chrétienne. Alors je pense que là, on va assister, me semble-t-il, dans les années à venir, à une évolution. J'avais déjà eu l'occasion de dire cela à l'ORTF, à une émission de télévision, une émission Zoom, à propos de ces femmes divorcées, remariées, qui manifestaient une telle souffrance de ne pas pouvoir recevoir le corps du Christ, qui est pour elles une nourriture très, très profonde, enfin, dans leur vie spirituelle. Quelle est cette évolution possible? Bien, tout d'abord, les cas de nullité de mariage qui sont actuellement jugés par Rome le sont en fonction de l'acte charnel accompli ou pas, ou en fonction de la liberté extérieure reconnue à celui ou à celle qui ont à dire oui au moment du mariage. Il me semble que c'est finalement, comme on ne peut pas tellement juger de la liberté, c'était uniquement en fonction de l'acte charnel ou à peu près. Or, c'est un point de vue qui est, me semble-t-il, trop matériel, trop physiologique, exclusivement. Et donc, peut-être, ce n'est pas seulement le médecin qui pourrait juger s'il y a eu ou non mariage, mais peut-être le psychologue, car se marier, c'est aussi un acte psychologique. Enfin, il y a un échange de consentement et pas seulement un échange de corps. Alors, sur ce point-là, il peut paraître possible comme évolution dans l'Église, et je crois que je ne dis pas ça en l'air, je sais que des cardinaux même le désirent et le demandent. Il y aurait une évolution en ce sens que les cas de nullité de mariage pourraient être jugés aussi par des psychologues, et l'Église prendrait acte de leur décision en constatant qu'il n'y a pas eu vraiment mariage, même s'il y avait eu des enfants. Ça, c'est un premier point.
Lorsqu'une femme catholique, et nous parlons de catholique pratiquante, intégrée à l'Église, totalement, divorce, prenons l'exemple, si vous voulez, d'une femme de 25 ans ayant un ou deux enfants, est-ce qu'il est possible de lui demander, justement, de la condamner pratiquement à vivre durant 40 ou 50 ans, ou peut-être un peu plus, seule? Et cela après avoir subi des épreuves difficiles, et le mot difficile est, je crois, petit, puisqu'elles ont dû à se battre durant des mois et des années afin d'obtenir la garde des enfants, afin d'avoir une pension, et même s'il y a eu au départ consentement mutuel entre les époux pour ce divorce, étant donné la loi française qui n'accepte pas le consentement mutuel, il a fallu que durant des mois et des années, ils échangent des lettres d'injures, qu'ils inventent des griefs pour obtenir ce divorce. Si elle se remarie, ayant trouvé un compagnon réel, elle est rejetée de l'Église peut-être à un moment où elle en a le plus besoin. Et on a pu voir justement dans l'émission à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure que des prêtres conseillaient alors à ces femmes de vivre en concubinage. Cela même s'il y avait des enfants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, toute notion de valeur peut basculer pour ces femmes ? Ce à quoi elles croient le plus est diminué par ce conseil. Vous pouvez recevoir le sacrement si vous vivez en marge de la société et si vous n'êtes pas engagé solennellement et face à la société.
Vous posez là le très grave problème des femmes seules. Je voudrais simplement, enfin des femmes divorcées, je voudrais simplement dire là que un certain nombre d'entre elles, par christianisme très profond, très courageux, réussissent à vivre dans la chasteté. Je crois qu'on ne peut pas mépriser ce témoignage d'une très grande qualité qu'elle donne à toute la société, et il est important d'abord qu'on le reconnaisse. Ensuite, un certain nombre d'entre elles, d'autres, vivent en concubinage, et vous venez de dire que certains prêtres pouvaient les encourager dans ce sens-là. Personnellement, je ne le ferai pas. Je crois comme vous que ce n'est pas très honnête. Lorsqu'il y a une vie sexuelle commune depuis un certain temps, il ne faut pas non plus précipiter les gens dans le mariage, mais lorsqu'il y a une vie partagée, il me semble honnête de reconnaître que là, il peut y avoir un remariage légal et que cela facilite bien des choses à la femme et au fond, c'est beaucoup plus honnête dans les valeurs qu'elle vit. Donc je ne conseillerais pas ce concubinage. Mais il va y avoir donc remariage. Comment l'Église va se situer en face de ce remariage? Eh bien, je voudrais dire, et c'est peut-être le deuxième point important d'une évolution possible de l'Église, je voudrais dire que dans certains diocèses actuellement de Hollande, et peut-être dans un certain nombre de cas un peu partout dans le monde, sans que cela soit très connu, des décisions sont prises qui vont dans un sens très précis, à savoir... Lorsqu'il y a un foyer nouveau, donc lorsqu'un divorcé s'est remarié, après 5 ans d'une vie qui manifesterait un caractère chrétien, mettez par exemple par le fait du baptême des enfants, de l'attention portée à leur éducation chrétienne et par l'assistance à la messe, eh bien il pourrait y avoir reconnaissance de ce nouveau foyer par l'Église, non point à l'occasion d'un remariage, c'est-à-dire le mariage ne serait pas permis. Mais ce qui pourrait être permis, pour le bien de ces époux nouveaux et pour le bien des enfants, ce serait de leur accorder l'absolution et de leur permettre l'Eucharistie. Il me semble que sur ce point-là, l'Église peut, dans l'avenir, s'orienter dans ce sens. Personnellement, je le souhaite, mais évidemment, je ne parle qu'en mon nom personnel. Là. Je crois que c'est possible sans qu'il y ait atteinte à l'indissolubilité du mariage. Le mariage reste l'acte indissoluble qui témoigne pour l'Église de l'amour que Dieu a pour les hommes, de l'amour que le Christ a pour son Église.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'Église, en ce moment, n'essaie plus de défendre des valeurs uniquement sociales ?
Oui, je crois que l'Église est moins liée à l'institution du mariage, elle est plutôt liée à sa signification. Je veux dire par là que le sacrement... c'est la reconnaissance de l'amour que Dieu a pour les hommes, c'est le signe, c'est le témoin, le garant de cet amour que Dieu a pour les hommes, et c'est la fidélité interne du mariage qui est le signe de cet amour de Dieu pour les hommes, et pas seulement l'institution. Alors pendant très longtemps, on a été très sensible à l'institution du mariage, au cadre finalement, mais aujourd'hui, on est plus attentif à l'intérieur, enfin à la fidélité interne, à l'amour, qui seul... et signe de cet amour que Dieu a pour les hommes. Alors l'Église donc pourrait aussi là permettre une reconnaissance du mariage civil comme étant un vrai mariage, et déjà d'ailleurs indissoluble en tant que tel, comme tout mariage. Mais le caractère de signe de l'amour de Dieu pour son Église, le caractère sacramentel, du mariage ne serait reconnu qu'après, lorsque des époux en seraient capables, enfin l'accepteraient, le comprendraient. Et je crois que sur ce point-là, il peut y avoir une évolution. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a un point au moins sur lequel je voudrais, mais alors là très très profondément, que l'Église très prochainement prenne des décisions nouvelles, et ça s'impose me semble-t-il, c'est à propos de l'enterrement des divorcés remariés. Nous les excluons actuellement d'un enterrement religieux. Mais ça me paraît ne pas être normal. Nous demandons à des gens de venir à la messe tous les dimanches. Nous les acceptons dans une communauté chrétienne quand ils sont vivants et nous les rejetons lorsqu'ils sont morts. Est-ce que l'Église ne peut pas confier à la miséricorde de Dieu ces divorcés remariés lorsqu'ils viennent à mourir sans que cela fasse le moins du monde au scandale auprès des autres chrétiens et sans que cela atteigne le moins du monde l'institution du mariage? Enfin, il me semble que sur ce point-là, nous nous devons d'évoluer.
Vous venez de dire que certains catholiques réagissent justement lorsque l'on veut enterrer religieusement des divorcés remariés. Il y a parmi les catholiques beaucoup de non-pratiquants. Ceux-là, je pense, ne sont pas les derniers à crier au scandale. Et bien souvent, on peut voir des couples catholiques, disons non-pratiquants, car je pense que les autres savent poser les problèmes, y penser, les retourner et en souffrent trop profondément lorsqu'il y a rupture pour pouvoir s'abaisser à se servir de leur religion pour mettre une entrave au divorce. Mais parmi ces couples catholiques non pratiquants, il en existe beaucoup qui se servent brusquement du catholicisme pour ne pas divorcer, qui jettent cela en travers. Et l'on voit des couples avec enfants qui ne divorcent pas et qui vivent dans un véritable enfer.
Alors, il est possible, voyez, que un certain nombre de chrétiens baptisés non pratiquants se servent en effet de la foi seulement à ce moment-là. Mais vous n'empêcherez jamais les gens de ne pas être tous adultes. C'est très difficile, cela. Mais, par ailleurs, peut-être certains, à ce moment-là, évoluent et redécouvrent une foi plus profonde. Si le catholicisme les a aidés à se poser cette question du foyer à un niveau très intérieur, ce n'est pas nul. D'autre part, pour les enfants, le problème est très délicat, mais je voudrais seulement dire que l'Église ne pense pas que les enfants, sous prétexte qu'il y a maintien de l'institution, les enfants sont plus heureux. Il y a des cas où les enfants vivent en effet dans un enfer qui est inadmissible. Mais l'Église a toujours admis la séparation d'un couple. Permettez-moi d'ajouter que l'Église intervient beaucoup plus maintenant, avant le mariage, et donc prépare peut-être des mariages chrétiens plus vrais. Il est demandé aux fiancés aujourd'hui de se présenter à l'Église 3 mois avant le mariage et de s'y préparer par des réunions, par un échange avec un prêtre ou avec des chrétiens. Et ces échanges permettent sans doute à de jeunes couples, enfin de jeunes fiancés, de se situer dans l'Église et dans le monde, d'entrevoir leur mariage donc dans la vérité du sacrement et non pas dans cet acte seulement extérieur, tape à l'œil, enfin ça fait bien de se marier à l'Église en robe blanche et avec de l'orgue, mais cela, ce temps-là est un peu terminé et il me semble que l'Église fait un gros effort aujourd'hui pour préparer des mariages vraiment chrétiens et non pas seulement sociologiquement chrétiens.
Et pour conclure ?
Pour conclure, je voudrais demander à la société, enfin au public qui m'entend, disons, que nous cessions d'être pharisiens devant tous ces problèmes. Trop souvent, nous avons regardé les choses de l'extérieur, nous nous sommes figés dans une critique, dans un jugement qui, n'étant pas au courant des vraies motivations, rend la vie odieuse à ces femmes seules, quelles qu'elles soient. Et sur ce point, qu'elle soit, je veux dire, mère célibataire ou bien divorcée ou remariée, sur ce point, on ne peut que souhaiter une évolution vers une vraie attention, un vrai respect de chacun, sans jugement préétabli, sans ces clichés, ces préjugés dans lesquels nous sommes, il faut bien le reconnaître, trop souvent tombés.
Précisons qu'il existe actuellement à Paris des cercles présidés par des prêtres qui réunissent des couples divorcés et remariés désireux de poursuivre une vie chrétienne. Il suffit, pour y participer, de s'adresser au clergé de chaque paroisse. Notre panorama serait cependant incomplet si nous n'avions pas abordé le destin de la mère célibataire. Pour ce faire, nous cédons maintenant le micro à Nicole Strauss et à Marie Laforêt.
Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je vais quitter ce soir, que l'on peut avoir de la peine et sembler ne pas en avoir, le cœur blessé encore sourire. Dernier mot qu'il faut écrire lorsque finit mal un roman.
Marie Laforêt, pardonnez-moi d'abord d'entrer ex abrupto dans votre intimité, mais le sujet que je voudrais débattre avec vous aujourd'hui est le problème de la mère célibataire. Vous avez deux enfants ?
J'ai deux enfants.
Un garçon et une fille ?
Une fille et un garçon.
Qu'est-ce qui vous a amené à décider volontairement d'élever seuls vos enfants ?
C'est une suite de circonstances qui étaient telles que la logique voulait que je prenne cette décision. Mais ça n'a pas été une décision prise au départ en me disant « Dans la vie, qu'est-ce que j'aime ? J'aime les enfants. Je vais avoir des enfants toute seule. » C'est une chose que je n'aurais jamais pu faire. J'ai été obligée de prendre une solution comme celle-là. Mais au départ, ce n'est pas du tout ce que j'envisageais de faire dans la vie. Je suis foncièrement contre les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Enfin, ce n'est pas normal. Je crois qu'un foyer, c'est une chose équilibrée, normale et dont les enfants ont besoin.
Ce de quoi vous étiez convaincue.
Absolument, je le suis toujours. Cela dit, étant donné que les choses ont changé et que je me trouve dans cette situation, il faut prendre le taureau par les cornes et essayer de voir comment on peut envisager ce problème d'une façon logique et constructive.
C'est-à-dire que, si je peux pousser plus loin mon indiscrétion, vous avez préféré avoir des enfants d'un homme que vous aimiez et ne pas l'épouser que de ne pas avoir ses enfants du tout.
En gros, c'est ça.
En gros, c'est ça.
Voilà. Je voudrais avant tout que mes enfants aient un maximum de rapports avec leur père. C'est-à-dire qu'ils aillent le voir, au moins passer une ou deux journées par semaine avec lui, passer des vacances avec lui, qu'ils viennent déjeuner à la maison, qu'il y ait d'abord une bonne atmosphère.
Même si l'homme que vous épousez plus tard n'est pas leur père.
Même si l'homme que j'épouse plus tard n'est pas leur père. Mais avant tout, qu'il y ait une bonne atmosphère dans une maison, où qu'il n'y ait pas de cris, de pleurs, de grincements de dents, de problèmes, de débats, de choses comme ça. Les débats, les enfants n'ont pas à y assister et ne doivent pas en être témoins. Et qu'ils soient heureux, c'est tout ce que je demande. Moi, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une situation telle que, en fin de compte, le problème matériel des enfants n'est pas une catastrophe. Je ne sais pas s'il est tellement bon pour une femme de se dire « il vaut mieux avoir cet enfant et le garder, quoi qu'il en soit ». Quitte à manger de la vache enragée pendant 10 ans. Peut-être qu'au bout de 3 ans, cette femme sera fatiguée. Une femme fatiguée, une femme qui a des problèmes, ne peut pas avoir une ambiance agréable chez elle. Tout devient un problème.
Est-ce que vous auriez fait un autre métier ? Vous auriez une situation beaucoup plus modeste ? Est-ce que vous auriez réagi différemment, pensez-vous ?
Non, parce que moi, c'était un problème médical plus qu'autre chose. C'est-à-dire que j'avais ces enfants ou bien je n'en avais pas. Donc, pour moi, la question n'a même pas pu se poser. J'avais d'abord envie de les avoir, je les voulais, j'ai toujours voulu avoir des enfants, toute ma vie, ça a été mon rêve. Si je pouvais en faire 15 de plus, je serais la plus heureuse des femmes. Mm-hmm. Bon, ça n'est pas le cas. Donc, je n'avais pas le choix. Et ça n'a pas été un problème pour moi. Je ne me suis pas dit, c'est horrible, je suis obligée de les avoir. Je les voulais, je suis heureuse, tout est très bien. Je crois quand même que le problème matériel est une chose très importante à laquelle une femme doit penser quand elle décide d'avoir et d'élever seule un enfant. Déjà, le fait de ne pas avoir de père est un problème peut-être traumatisant pour un enfant.
Comment comptez-vous le résoudre vis-à-vis d'eux ? Quand ils commenceront à poser des questions ?
Ils vont poser des questions, certainement. Ils vont poser des questions.
Dès qu'ils iront en classe.
Dès qu'ils iront en classe. Je voudrais que ça ne soit pas un problème grave pour eux, qu'ils ne se sentent jamais rejetés de la société. Je crois qu'à l'heure actuelle, le problème est un peu dépassé et que les gens ne sont plus tellement choqués par le fait qu'une femme reste célibataire et ait des enfants. Ils le seront encore pendant encore une génération, je pense, mais après, ça deviendra quelque chose qui sera plus courant.
Vous pensez que, en fait, une femme non mariée, une femme célibataire qui élève ses enfants n'a pas davantage de problèmes qu'une femme qui a divorcé quand son enfant était très petit.
Sur le plan d'éducation, je crois que le problème est le même. En fin de compte. Ou alors, peut-être qu'il y a certainement des cas particuliers où l'enfant ne connaîtra jamais son père, ou peut-être même que le père n'est pas au courant, ou... Là, ça risque d'être un peu plus dangereux, je pense. Je n'en sais rien, ça peut se passer très bien. Ça dépend comment est la mère. Si c'est une femme intelligente, posée, sensée, raisonnable, qui vraiment a bien, bien réfléchi au problème et n'a envisagé cette solution qu'après avoir beaucoup réfléchi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Est-ce que vos enfants connaissent leur père ?
Oui, bien sûr, ils le voient très souvent et à chaque fois, c'est la joie quand il vient les voir. Mais ça n'est pas un problème, il s'en va. Pour eux, ça fait partie de la vie. C'est comme moi, quand je pars en voyage ou que je vais travailler. Pour eux, je travaille. Il y a toujours quelqu'un qui s'occupe d'eux en permanence à la maison. Donc, il y a toujours le foyer qui reste intact.
Et le père de vos enfants est toujours dans votre vie ?
Non. Jusqu'à présent, ça ne pose pas de problème. Peut-être que ça en posera plus tard. Je ne le crois pas parce que le père des enfants et moi-même, nous en avons discuté très longuement nous voulons justement faire très très attention à ce qu'il n'y ait jamais ce qui arrive très souvent, enfin dans les ménages divorcés. Ah oui, mais ton père, ce fils de ceci, et ta mère, c'est la reine des... etc. Enfin, je ne sais pas ce qui peut se dire en pareil cas. Mais surtout que l'un vis-à-vis de l'autre, que nous conservions un certain respect, tout au moins vis-à-vis des enfants, et même de toute façon, c'est un monsieur charmant que j'aime beaucoup.
Donc
je crois qu'il n'y a pas de problème pour ça. Ils ont l'air de très bien réagir. J'avoue quand même que ça me fait peur, cette histoire d'autorité paternelle dans une maison. J'ai beaucoup d'autorité, enfin, sur mes enfants. J'essaie d'être un petit peu le père et la mère en même temps. C'est-à-dire que dans la journée, je suis plutôt le père, en disant ça, il faut faire ça, tu ne veux pas manger, ben ne mange pas, tu vas faire ta sieste tout de suite, il n'y a aucun problème, pas de cri, mais elle sait que... elle se heurtera toujours à quelque chose, à une décision très ferme.
C'est ça.
Et puis, le soir, c'est autre chose. C'est la tendresse, c'est la chanson avant de faire dodo, c'est vraiment... Le matin, quand elle se réveille, c'est maman. Le soir, quand elle va se coucher, c'est maman. Et le reste de la journée, c'est l'autorité. C'est, de toute façon, tu ne veux pas aller au parc, tu iras quand même. Ça ne fait rien, prends ton seau, va t'habiller.
Et au milieu de tout ça, quand trouvez-vous le temps de chanter et de tourner les films ?
Ben, je trouve le temps, oui, quand même. J'essaie de travailler le soir, au maximum.
Vous consacrez beaucoup de temps à votre rôle de mère de famille.
Oui, c'est quand même important. C'est plus qu'important, c'est tellement agréable.
C'est essentiel.
C'est merveilleux, il n'y a pas meilleur au monde.
Et vous vous trouveriez actuellement devant une de vos amies, et que vous aimez beaucoup, ayant l'âge approximatif que vous aviez quand vous avez eu votre premier enfant, qui se trouverait... un peu dans la même situation, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Oh, je lui dis de garder ses enfants de toute façon, de les élever, de... Tout ça dépend, enfin, je ne sais pas à qui on s'adresse. Il faut voir les gens, il faut parler avec eux. On a trop parlé des mères célibataires, c'est devenu un titre vedette dans les journaux féminins. Vous voyez, l'éducation sexuelle et les mères célibataires, ça finit par être... C'est horrible à dire, mais ça finit presque par être une mode. Par devenir quelque chose, alors qu'il y a 10 ans,
ça fait jeux interdits.
Ça fait jeux interdits, exactement.
Merci, Marie Laforêt.
Me conduire jusqu'au bout du chemin.
Il me reste à vous dire bonsoir. En vous quittant, je veux vous laisser méditer sur cette charmante chanson d'Anne Sylvestre, écrite pour une solitude.
C'est pour une solitude que j'ai fait cette chanson. Si l'hiver parfois est rude pour la petite maison, regardez le paysage, dites-vous qu'il n'y a pas de plus vrai ni de plus sage que vous qui habitez là. Pour votre fenêtre, pour ce qu'il y a au fond, moi je laisserai peut-être les plus riches maisons, les plus riches maisons. C'est pour votre solitude que j'ai envie de chanter, et pour cette quiétude où vous attendez l'été. Si l'hiver souvent désole la colline sous le vent, quelle douceur vous console quand débarque le printemps. Pour votre fenêtre, pour ce qu'il y a au fond, moi je laisserai peut-être les plus riches maisons, les plus riches maisons. Cultivez l'amour, patience, à côté du romarin. L'aventure au point de chance affectionne l'air marin. Pour moi, je crois que j'en rêve de pouvoir me lever tôt, quand le jour aussi se lève et que passent les bateaux. Pour votre fenêtre, pour ce qu'il y a au fond, moi je laisserai peut-être les plus riches maisons, les plus riches maisons. Ne me croyez pas futile, ne vous sentez pas perdu, rien n'est jamais inutile, sitôt qu'un fil est tendu, et quand trop d'inquiétude me fait chercher des raisons, c'est pour votre solitude que je chante ma chanson. Pour votre fenêtre, pour ce qu'il y a au fond, moi je laisserai peut-être les plus riches maisons. Pour votre fenêtre, pour ce qu'il y a autour, moi je laisserai peut-être ce que j'ai sauf l'amour, ce que j'ai sauf l'amour.
C'était Carte blanche à Sandrine de Portal, La femme et la solitude, une émission diffusée la première fois le 11 mars 1968 sur Intervariété. Réalisation Bernard Latour. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.